Le sommet citoyen revient à Lille du 12 au 14 juin 2025. Donc c'est cette année, une initiative portée par 8 associations et collectifs pour replacer les citoyens au cœur des décisions. Pour en parler, je suis avec Aurélie Gros, une des fondatrices de ce projet. Bonjour Aurélie.
Bonjour, ravie d'être parmi vous.
Pareillement. Pouvez-vous, dans un premier temps, présenter ce collectif ?
Alors ce collectif, en fait, c'est 8 fondateurs qui ont monté en 2022 le premier sommet citoyen qui avait eu lieu à Marseille. 8 fondateurs qui seront constitués du collectif Santé en danger, de Amour de la justice, I2M, Electis, Handicap République et Société, Papillon de jour et bien entendu l'association qui porte un peu l'ensemble Idéal Citoyen que je préside. Donc vous voyez des associations qui agissent dans différents champs qui touchent au quotidien des Français.
Alors justement, on va en parler puisque ce sommet citoyen, qui je rappelle se déroule tout début juin, du 12 au 14, va rassembler combien d'acteurs et quels sont les acteurs qui vont participer et puis apporter aussi leur ciment un peu à ce projet ?
Alors, à l'époque, ça s'appelait le G500 parce que nous étions 500 associations à avoir fait un appel au président de la République, aux décideurs en général, hein, de l'Assemblée nationale ou sénateurs. Et aujourd'hui, on a environ près de 3000 associations. Donc, on ne va pas appeler ça le G3000. Ça s'appelle toujours le G500, le sommet citoyen. En petit clin d'œil au G7, G20, bah, vous voyez, les citoyens ils sont encore plus nombreux et ils ont aussi leur grand moment et leur grand sommet. Donc, c'est environ 3000 associations de la France entière qui vont du petit collectif qui s'occupe de la rénovation d'un four à pain dans un village de Bretagne aux très, très grosses associations. On peut citer le Téléthon qui interviendra aussi sur place. Donc voilà, on attend 3000 associations sur place à Lille le 12, 13 et 14 juin.
On peut peut-être rappeler le lieu où ça se déroule, cette rencontre ?
Oui, tout à fait. Ça a lieu dans un lieu magnifique de Lille que peut-être tous vos visiteurs connaissent puisqu'ils font pas mal d'événements, qui s'appelle Garage. Qui est un ancien garage d'ailleurs, mais qui dispose de plusieurs salles et qui vont nous permettre de mener pas mal de tables rondes et d'échanger et justement d'avoir aussi un côté convivial parce que l'intérêt c'est que tout le monde puisse s'y rendre et se retrouve dans un endroit moins institutionnel parce qu'on est des citoyens et qu'on a envie de faire bouger les choses et qu'on a envie de traiter ça aussi à la façon de faire française, c'est-à-dire on accueille, on discute, on échange, on s'engueule éventuellement, mais à la fin on se met d'accord parce que les citoyens arrivent toujours à se mettre d'accord. L'intelligence collective, ça existe.
Alors vous avez parlé de participation, de dialogue. Comment ça va se dérouler ? Il y a des séances plénières, il y a des tables rondes, il y a des jeux, il y a des questions-réponses, il y a des votes. Comment ça se déroule un tel sommet qui dure 3 jours à Lille ?
Alors, un tel sommet qui dure 3 jours à Lille se déroule effectivement chaque journée à sa spécificité. Par exemple, le jour le 12, donc le jeudi 12, nous ouvrons sur les tables rondes internationales. On a voulu donner une dimension internationale consacrée notamment à la défense de la démocratie, alors que on le sait, dans le monde, elle recule. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Donc, il faut préserver ce trésor que nous avons en commun, c'est-à-dire une démocratie vivante et respectueuse des diversités. Et c'est pour ça que nous accueillerons ce jour-là, par exemple, une journaliste afghane, un blogueur taïwanais, des responsables associatifs du Maroc, de Tunisie, du Mali et d'autres invités européens. Voilà, et tous seront reçus par l'accueil républicain du maire, il ne s'agit pas d'exclure les élus, et du conseil régional d'Île-de-France, le président de la région. Car c'est quand même un honneur d'avoir tous ces invités qui vont échanger. Et on aura comme grand témoin notamment sur la question de l'eau, bien public mondial ou arme de dissuasion. On aura comme grand témoin Abdoulaye Séné, qui est président du Forum mondial de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est quand même un invité prestigieux. Ensuite, nous parlerons de l'information à la source des conflits ou de leurs avènements. On parle souvent en France des fake news, mais avoir un regard sur le monde, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on aura une conférence de socle commun, donc ça c'est toute la journée d'ouverture, et vous comprendrez, après l'eau, l'information, en fin de compte, ce sera l'autocratie versus démocratie, vers quoi penchent les peuples. Donc, vaste sujet, et on aura beaucoup aussi d'intervenants, et on essaiera. Et après, derrière, on aura un dîner en l'honneur de tous ces invités étrangers, avec les prises de parole. Et dans la soirée, car il ne faut pas oublier la jeunesse qui participe à toutes ces tables aussi et qui vient écouter, nous ferons une grande soirée démocratie jeunesse DJ7, qui sera ouverte à tous les jeunes qui souhaitent évidemment venir. Pour le vendredi, on rentre plutôt dans le dur, c'est-à-dire on rentre sur les tables rondes sur santé, handicap, donc il y aura aussi une grosse table ronde sur la notion de faire territoire avec les entreprises qui s'engagent, alors beaucoup d'entreprises du territoire, mais pas que. Ensuite, on aura la démocratie, la grande concertation autour de démocratie, le contrat de confiance, et on va essayer d'échanger, notamment sur ces demandes qui sont faites sur une convention citoyenne pour la démocratie. Voilà, il y a beaucoup de notions qui ressortent de beaucoup d'associations, donc on va essayer d'échanger. Ensuite, l'après-midi, nous aurons la table des négociations sur un grand sujet qui est la première préoccupation des Français, qui est la santé. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme on est une fabrique d'idées, on a des processus avant d'arriver, on en parlera peut-être après, mais avant d'arriver à ce sommet citoyen. Et donc, cette table des négociations avec des élus présents, sénateurs, députés, élus locaux, sera sur la loi de programmation santé pour sauver notre système universel. Donc, on va essayer de monter une commission mixte tripartite et non pas paritaire, comme ça se passe dans nos institutions. Voilà. Ensuite, on va avoir une table ronde sur la justice respectée, conditions premières du système démocratique. Une table ronde sur le handicap, comme je le disais en préambule, pour tenir enfin nos promesses. Et ensuite, on aura retrouvé l'exception culturelle française. Tout ça avec des jeunes qui participeront, puisqu'on avait fait aussi beaucoup de réunions autour de la jeunesse. Et le soir, nous aurions la chance d'accueillir les associations qui ont participé au trophée de l'initiative citoyenne qui sera remis donc à une des 6 associations qui en ce moment concourent pour gagner ce trophée. Et le samedi, le samedi c'est un peu plus léger, c'est-à-dire que c'est on aura une table ronde sur les mobilités et les propositions innovantes au banc d'essai, mais on aura surtout les résolutions du sommet citoyen, c'est-à-dire un petit peu et le vote pour le coup général, tout ce qui se sera dit pendant ces tables rondes, tous les votes qui auront été effectués pendant ces tables rondes, ils reviendront à 11h le samedi pour acclamer ou non tout ce travail et tous ces échanges qui auront été effectués par toutes ces associations et les citoyens, évidemment.
Je rappelle que je suis avec Aurélie Gros, fondatrice et présidente du Sommet Citoyen qui se déroule du 12 au 14 juin à Lille, au Garage des Lillois, 34 boulevard Carnot.
Et en centre-ville, et l'événement évidemment est gratuit. Il y aura à l'issue de certaines tables rondes, des cafés, des choses à grignoter quand on fera toute la question sur l'agriculture, parce qu'on va essayer de travailler aussi avec les agriculteurs du coin. Donc il y aura de quoi manger, se restaurer. On va peut-être faire venir un food truck, on est en train de regarder tout ça, mais il y aura de quoi manger, en tout cas à proximité, ça c'est sûr, voire sur place.
Est-ce que pour participer, il faut s'inscrire au préalable ou alors on ouvre la porte, on rentre et puis on s'inscrit à vos différents pôles d'animation, de réflexion,
alors,
de vote ?
Idéalement, oui, s'inscrire, c'est toujours mieux parce que ça permet aux organisateurs de s'organiser encore mieux. Mais après, si des personnes ont oublié de s'inscrire, évidemment, ils seront les bienvenus tout de même. On ne refuse pas aux citoyens qui veulent participer.
Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de citoyenneté, de réflexion, d'avenir de la planète, que c'est aussi une des principales missions de ce sommet pour une agriculture raisonnée, pour consommer mieux, pour s'habiller de façon moins consommatrice de plein de choses. Est-ce que vous allez également éditer des vidéos ou un livre, un document qui va faire la synthèse de tous les travaux ?
Alors, si vous voulez, dans l'élaboration du sommet citoyen, cette nouvelle fabrique d'idées, il y a un processus d'élaboration avant même le sommet qui est très original, avec des étapes dans plusieurs régions qui ont eu lieu un petit peu partout dans toute la France et sur les grands thèmes. qui rythme le quotidien des Français, et cette fabrication de résolutions à partir déjà de ces réunions, c'est-à-dire des solutions issues de terrain. Et pour que les grands décideurs, en fin de compte, s'appuient non plus sur des idées de technocrates, mais sur le peuple, y compris pour décider des plans d'action, des grandes mesures pour la vie quotidienne des Français, et même des lois sur des sujets sensibles. Et je donne pour exemple, parce que ça s'est passé dans votre région, la loi d'orientation santé dont je vous parlais tout à l'heure, et d'orientation et de programmation santé que nous sommes en train de porter actuellement auprès des ministres, des parlementaires, de l'ARS, des directeurs d'hôpitaux, etc., a été constituée avec 100 représentants, avec le collectif Santé en danger, en partenaire principal, mais 100 représentants du milieu de la santé, tout corps confondu, et avec les principaux syndicats de France. Et on a réussi à se mettre d'accord pour écrire 150 pages de loi d'orientation et de programmation santé. Ce que les Français demandent à nos décideurs, à nos parlementaires, et ben la société civile a réussi à le faire. Et ben ce type d'idée, en fin de compte, va se retrouver au sommet avec déjà des résolutions qui vont partir au vote. Après, elles sont déjà en ligne sur le site. On peut déjà voter sur handicap, on peut déjà voter sur justice, sur culture, l'exception culturelle. Justement, c'est l'intérêt du sommet, c'est un peu aussi de donner le résultat de tout ce tour de France qui a été fait pendant un an autour de ces résolutions, parce qu'il ne s'agit pas juste de blablater et de faire des réunions entre citoyens pour être contents. Il s'agit après d'aller voir avec une base programmatique, quelque chose de concret fait par les citoyens, d'aller voir nos décideurs en leur disant « Vous voyez, nous, on est 3000 associations, on a voté ça au sommet citoyen à 95,99%. Eh bien, aujourd'hui, emparez-vous de cette matière grise, emparez-vous de ces résolutions, et portez-les, parce que c'est votre boulot de les porter. » Donc c'est un peu, vous voyez, c'est une méthode où on compte avoir du résultat. Donc les gens pourront effectivement aller voir des vidéos en ligne, il y aura sûrement des lives les jours J, les 12, 13, 14 juin à Lille. Il y aura effectivement les résolutions qui seront mis au vote pendant à peu près 3 mois jusqu'à septembre. Donc on va continuer. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place, ils pourront regarder tout le travail qui a été effectué et l'amender et même ou l'applaudir avec les deux mains en disant nous on se joint à vous, on signe et il faut aller porter, il faut faire bouger nos décideurs, parce qu'il n'y a pas que les élections dans la vie. Il y a le quotidien des Français et les Français en ont marre de voir les choses ne pas avancer.
Absolument.
Voilà, il faut redonner confiance aux Français, leur donner envie d'aller voter et leur montrer que quand on participe, on les ignore pas. Voilà.
Eh bien, on a
par rapport à des réalités de terrain. Bah oui, là, je crois qu'on a fait
le tour. On a fait le tour. Alors, idéal-citoyen.fr, on pourra voter ou vous pourrez voter. Eh bien, merci beaucoup.
Citoyen avec un S.
Ah ben oui.
Vaut mieux. Je précise, parce qu'on est plusieurs.
Tout à fait.
Merci à vous.
Merci Aurélie. Bon succès en tout cas pour ce moment de réflexion et ce moment aussi où chacun peut participer et se faire entendre surtout.
Exactement. Merci et à bientôt.
Au revoir.
Ce reportage a été réalisé par Christophe Pasquet de Radio Plus.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 dans le Nord-Pas-de-Calais et partout dans le monde sur Internet.
La fille qu'on voit exceptionnelle, belle comme un camion, mais pas si terne. Cendrillon drôlement carrossé, au début je l'avais pas remorqué, mais là je vais m'y atteler. Hey! Elle dit faut pas charrier, qu'elle en a vu des contractés, qu'elle voudrait bien souper, même que peut-être elle m'emmènera. La ramène pas. Ses jambes m'épatent, ses poils m'étouffent et ses kilos m'étonnent. Pourtant c'est elle qui va changer la donne. Ah, 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 ah.
blanc comme un frigo horrifié. Moi je la regarde manger, ça la fait pas des masses. Elle me tend un hectare d'abricots, j'y dis c'est beaucoup trop, ça vient d'une grande surface, dit-elle, avant qu'elle ne détale. Ses jambes, mes pattes, ses poils, mes touffes et ses kilos m'étonnent. Pourtant c'est elle le bonheur en personne. Jambes, mes pattes, ses poils, mes touffes, ses phares, mes phares et ses kilos m'étonnent. Pourtant c'est elle qui va changer la donne. Pour être franc, j'y panne rien. Pour être franc, j'y panne rien. N'importe où dans la vie que tu ailles, elle te laissera pas sur la paille. Et il se peut qu'à toi aussi, elle change la vie. Que ses jambes, tes pattes, ses poils t'étouffent et ses kilos t'étonnent. Pourtant c'est elle qui va changer la donne. Ses jambes, mes pattes et ses kilos m'étonnent. Pourtant c'est elle le bonheur en personne. Ah, 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 ah. Ses jambes, mes pattes, ses poils, mes touffes, ses phares, mes phares, mais ses kilos m'étonnent. Pourtant c'est elle qui a changé la donne. Ses jambes, mes pattes, ses poils, mes touffes, ses phares, mes phares, mais ses kilos m'étonnent. Pourtant c'est elle le bonheur en personne. Pour être franc, j'y panne rien. Pour être franc, j'y panne rien. J'y panne rien. J'y panne rien. J'y panne rien.
La 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 Bonjour, dans le cadre de Découvrons un village, je suis dans la commune de Saint-Yne, un village situé au sud de Compiègne dans l'Oise. Faisons connaissance aujourd'hui avec Jean-Pierre et Micheline Ponchon, deux Saint-Ynois qui ont grandi et vécu dans le village.
Bonjour.
Bonjour.
Micheline, vos parents sont eux-mêmes originaires de Saint-Yne ?
Ma mère, oui. Et mon père, les deux Verberies.
Vous êtes né en quelle année ?
1940.
85 ans dans la commune ?
Oui, oui. Enfin, on a parti un petit peu 7 ans quand on s'est mariés. On est parti à Béthisy-Saint-Pierre, puis après on a fait bâtir là, et on est là depuis 1970.
70, on est rentré.
70, oui.
Vous n'êtes pas Saint-Ynois d'origine ?
Non, moi je suis juste à côté, à Ruy. J'ai rencontré madame, je me suis marié, je me suis installé à Saint-Yne.
Alors, on va parler dans un premier temps, si vous le souhaitez, du patrimoine de la commune. Est-ce que, Micheline, on pourrait évoquer l'église Saint-Denis et Jean-Baptiste ? Elle s'appelle comme ça, il y a deux saints.
Oui, oui, oui. Ben, je peux vous dire que l'église, qui a une fontaine, la fontaine Saint-Jean, qu'on appelle la fontaine miraculeuse, qui a soi-disant des petits miracles du temps de ma grand-mère qui me le racontait. Maintenant, nous, quand on est habité à Saint-Yne, ça n'a plus arrivé, ça. Mais bon, c'était quand même la fontaine miraculeuse. Et on faisait des processions tous les ans à la Saint-Jean. Il y a même l'évêque de Beauvais qui venait, il y avait énormément de prêtres, tout ça, et on défilait autour de l'église avec des bannières, et ils bénissaient cette fontaine.
Elle est située au pied de l'église, hein,
c'est... Oui, 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 oui. Mais maintenant, on ne peut plus y aller, elle est fermée. On peut y aller, mais il faut le demander, quoi. Elle est entourée.
Alors, Saint-Yne possède aussi un château qui date du XVIe siècle. Il est désormais privé. Vous l'avez déjà visité quand vous étiez plus jeune ?
Non. On jouait autour, on avait le droit de rentrer, on jouait autour quand on était petit, avec le donjon, mais après, ils ont fait des logements dedans. Je ne suis jamais rentrée dedans.
Saint-Yne est également connue pour son usine d'allumettes. On l'appelait la Manu. Forcément, vous connaissiez des Saint-Ynois qui y ont travaillé ?
Ben, mon grand-père, il travaillait, et ma mère, et mon frère, toute la famille. Et moi, on m'avait inscrit, mais on ne m'a jamais appelé. Je devais y rentrer, mais c'est mon frère qui est rentré, pas moi. Dommage.
Vous avez donc exercé quel métier à la place ?
Comment ?
Vous avez exercé...
Ah ben, j'ai travaillé à la brosserie à Béthisy-Saint-Pierre. J'ai commencé à Saint-Sauveur, après ils ont fait fusion, Charret, Chaubrec, j'ai travaillé dans la brosserie.
Et comment c'était l'ambiance à la Manu ? Ils appréciaient les gens de travailler là-bas ?
Oui, ils étaient bien, il n'y avait rien à dire. Hein. Par contre, il y avait du monde, hein. Au début que ma mère y travaillait, ils étaient 600. Et quand la barrière se levait, les 600 personnes en vélo... Fallait pas se mettre sur la route. Fallait faire attention. Hein. Après, il y a eu les mobylettes, après les voitures, évidemment.
Votre maman, qu'est-ce qu'elle faisait précisément dans l'usine ?
Eh ben, elle travaillait sur une machine. Ils étaient à quatre. Pour pas faire toujours le même mouvement, tous les deux heures, ils changeaient de place. Parce qu'il y en a une qui mettait les étiquettes, une qui prenait les allumettes qui mettait dans la boîte et l'autre qui mettait le couvercle. Et ils tournaient comme ça, bon ben, ça allait. Et puis après, tous les trois mois, ils touchaient une décade, ils touchaient des allumettes, ils touchaient des cigarettes.
Et donc elle s'est mise à fumer ?
Oui, du coup, ma mère, elle s'est mise à fumer parce qu'elle touchait ses cigarettes. Voilà, c'est comme ça.
Est-il vrai qu'il existait une roue à aube juste à côté de l'usine ?
Oui, cette roue, elle est peut-être encore existante. Il faudrait aller dans les marais de Saint-Yne pour voir. Et là, cette roue servait uniquement à entraîner toutes les machines-outils de l'usine d'allumettes. C'est une autre époque, c'est avant l'électricité. Moi, je n'ai pas visité ça. J'ai visité la Manu, mais la roue à aube n'existait plus déjà quand on s'est marié. Donc c'est quand ses parents et arrière-grands-parents travaillaient qu'il y avait ça. Dans les années 1920, 1930, quoi, 40, 50. Puis après, la fée électrique est arrivée et ça a moins compliqué les choses.
Quand j'étais plus jeune, je la voyais, cette roue. On allait souvent sur le pont se promener, les enfants, et cette roue-là, je la voyais. Maintenant, il n'y est plus.
Vous, Jean-Pierre, vous avez exercé quelle fonction ?
Moi, j'ai travaillé chez Poquelin, j'étais tourneur, et après, j'ai évolué au fur et à mesure des années pour devenir entrer au contrôle, et puis voilà. J'ai travaillé 30 ans chez Poquelin, à Verberie, hein. C'est pas mal, quoi.
En 2025, il n'y a hélas plus de commerce à Saint-Yne. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme commerce à l'époque ?
Alors, il y avait deux boucheries-charcuteries, il y avait une boulangerie, il y avait un cordonnier, il y avait un coiffeur, que pour hommes. Il y avait trois cafés, une alimentation qui vendait un peu de tout et la COP. Il y avait une boulangerie, une poste, il y avait deux lavoirs, un terrain de foot dont mes trois fils ont joué, un cinéma tous les vendredis.
Cinéma dans la commune.
Un cinéma et on était contents d'y aller parce qu'on n'avait pas de voiture, rien. Et dans le café qu'il y avait, il y avait une grande salle et on venait faire le cinéma tous les vendredis soirs.
Il y avait du monde chaque vendredi, beaucoup se déplaçaient pour voir les films.
Oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions à ce temps-là. Hein.
Les commerces, Micheline, dont vous parlez, c'était en quelle année?
Quand je suis née, il y avait tous ces commerces-là. À partir de 1940, quand moi je suis née, j'ai connu tous ces commerces-là.
Et jusqu'à peu près quelle année ils sont...
Ils sont partis.
Ça doit être dans les années 80 qu'on a perdu un peu tout. Et successivement, après, la poste a fermé, les cafés ont fermé, et puis voilà. Et maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Par un coiffeur, il n'y a plus rien. Mais c'est dans les années 80 à peu près.
Forcément, vous regrettez ce manque de commerce dans le village, cette disparition?
Oui, beaucoup, hein. Parce que maintenant, comme moi, je veux une baguette de pain, il faut que je me déplace. Quoique le monsieur le maire, il a fait un dépôt de pain à la mairie, donc moi j'y vais. Je vais chercher mon pain, ça m'évite de sortir ma voiture.
Est-ce que, Micheline, vous pouvez parler de l'école qui existe toujours à Saint-Yne actuellement?
L'école, c'était bien, parce qu'en plus, on était séparés. Les filles dans une école, les garçons, et il n'y avait pas de maternelle à ce temps-là. On commençait à 6 ans à l'école, à l'école de Saint-Yne. C'était bien, c'était sympa. J'ai passé jusqu'à 14 ans comme ça, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Les maîtres d'école étaient bien, tout. Enfin, nous, on avait une maîtresse.
Vous écoutez actuellement l'interview de Jean-Pierre et Micheline Ponchon, deux Saint-Innois qui ont grandi et vécu dans le village. Tout à l'heure, vous parliez du club de football. Comme dans beaucoup de communes, il avait son importance dans le village. Il n'existe plus aujourd'hui en 2025. Quel était ce lien avec ce club de football?
Nos trois fils, quand ils ont fait ce terrain de foot, nos trois fils y ont joué. Ils ont joué tous les trois jusqu'à temps que ça ne marche plus, quoi.
Il était situé où, le stade et le terrain dans le village?
Au départ, le stade était au cimetière de Saint-Yne. Il y avait, ça doit être Bellevue. Donc il y avait le terrain de camping, il était en pleine campagne, au-dessus de la butte. Et après, ils ont aménagé un terrain de football à l'initiative de M. Le Large, maire, et de son père, qui était adjoint au maire. C'est le 25e RGA qui est venu creuser le terrain de foot. C'est-à-dire, il a abattu la butte, fait une planéité. Et puis là, le terrain de foot, il est toujours là. Maintenant, il est à l'abandon, puisqu'il n'y a plus personne, quoi. Mais ça partait quand même des poussins. Mes fils ont joué aux poussins jusqu'en cadet, si je ne me trompe pas. Et la première de Saint-Yne est montée jusqu'en promotion de première division. Et c'était quand même la sortie du dimanche. On allait voir les filles jouer. Même quand ils jouaient mal, on disait qu'ils jouaient bien. on voyait tous les gens de la commune. Et ça nous permettait de parler, du temps, n'importe quoi, quoi. C'était vraiment sympa. Mais malheureusement, c'est fermé. Hein. Il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus personne qui veut jouer. Voilà. C'est dommage.
Justement, la vie à Saint-Yne, là, dans les années que vous décriviez, 40, 50, 60, 80, même 90, comment elle était?
Elle était bien. Elle était bien parce que déjà, quand on allait faire nos courses, on rencontrait des gens, des personnes qu'on pouvait discuter, parler un peu de tout. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est triste, c'est vide. C'est vide. Et là, il y a un coiffeur qui vient de s'ouvrir et heureusement, ça a l'air de bien marcher pour lui. Après, je lui ai même demandé s'il pouvait faire un coiffeur pour dame. Il a dit c'est prévu, mais pas pour l'instant. Ils attendent un petit peu. Mais c'était bien. La vie à Saint-Yne était bien. On allait à la COP, on allait au boucher, on rencontrait, on discutait. C'était vraiment... C'était bien, quoi. Maintenant, je vais chercher ma baguette, je ne rencontre personne. Je suis toute seule dans le pays.
C'est ce qui manque aujourd'hui, en 2025, dans le village, selon vous?
Oui, ça manque énormément. Déjà, quand on prend de l'âge, nous, on a encore la chance de pouvoir conduire. Ça va, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui, dans Saint-Yne, ne peuvent pas se déplacer. Et avant, cette vie qu'elle raconte, c'était vraiment agréable à vivre. On n'avait pas peur du lendemain. On laissait nos portes ouvertes, on s'en allait, pas de soucis. les voisins veillaient, mais il se passait pas grand-chose. Hein. Puis il y avait un respect absolu aussi, le respect des personnes âgées, le respect des gendarmes, le respect de tout, on avait un respect. Hein. Nos maîtres d'école sont passés, notre instituteur était passé par là, hein. Il nous apprenait ça. On regrette un petit peu ces années. On les regrette peut-être parce qu'on vieillit et que la nostalgie des 20 ans peut-être aussi fait qu'on parle comme ça. Hein.
En quoi les commémorations du village, je parle du 14 juillet ou bien celle du 11 novembre, elles étaient importantes pour vous?
C'était bien parce que tout le pays, au 14 juillet sur la place, c'était super. Il y avait des jeux pour les femmes, des jeux pour les jeunes filles, des jeux pour les jeunes hommes et des jeux pour les hommes. Et on passait l'après-midi comme ça. Et puis après, au soir, il y avait un feu d'artifice, puis un grand bal sur la place ou s'il faisait froid dans la salle. Mais c'était vraiment sympa. On se réunissait tout le monde. Ils faisaient une retraite au flambeau avec les enfants. Ça, alors, il faisait un peu dans tout le pays, et puis après, c'était bien, c'était sympa.
Elle a oublié de vous parler d'une chose, c'est la musique. Il y avait une... C'est une clique, hein, c'est pas une fanfare. Il y avait la clique à Saint-Yves. Et ça aussi, ils défilaient au 14 juillet, au son des tambours, avec les clairons. C'était merveilleux, quoi. Hein, tout le monde rythmait la cadence avec les pieds.
Les commémorations, Micheline, c'est aussi celle du 8 mai. Elle était importante aussi, cette date-là?
Le 8 mai, oui, on allait en bas à la mairie et il y a la musique qui vient jouer. Et le maire, ils font des discours, ils annoncent les noms de toutes les personnes décédées. Et puis après, on va à la mairie prendre le pot de l'amitié, le 8 mai et le 11 novembre.
On l'a dit dans l'introduction, vous habitez Saint-Yves depuis 1940. Donc vous avez vu défiler pas mal de maires ici dans la commune. Est-ce que vous voulez nous parler de un en particulier?
J'ai connu le maire, M. Debuire, et puis après, il a été remplacé par M. Lelarge. M. Lelarge, mon père était conseiller, donc je le voyais un peu plus souvent que... Puis après, il y a eu M. Desmet, bon, on n'a pas eu trop de... rien de spécial avec lui. Puis après, avec M. Desmoulins, bon, on s'entend très bien aussi, ça se passe bien. Ils étaient tous plus ou moins bien.
Pour moi, je vais failloter. Pour moi, le meilleur maire là, que j'ai connu à Saint-Yves, c'est Jean-Pierre Desmoulins. Jean-Pierre Desmoulins, c'est un homme qui dit oui quand il faut dire oui, et s'il faut dire non, il dit non. Et quand on a besoin d'un service, si on va à la mairie, il le rend s'il le peut. Donc c'est bien. Et en plus, à la mairie, on est reçu toujours avec un grand sourire. La secrétaire ne revient à la banane jusque-là, c'est merveilleux. Et puis je vous dis, le maire est très attaché à sa commune. Il la défend comme il le peut, mais il la défend. Il y a toujours des gens qui respectent un petit peu.
Micheline et Jean-Pierre, c'était un plaisir d'avoir discuté avec vous de l'ancien Saint-Yves du XXe siècle.
Je vous remercie, c'était bien, c'était sympa.
Moi également, et je serais heureux de m'écouter sur Podcast. Et merci à vous d'être venu nous voir.
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. Nous étions avec Jean-Pierre et Micheline Ponchon, deux Saint-Yvois qui ont grandi et vécu dans le village.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers 5 émissions diffusées aux 4 coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la Ferme d'en Haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.
trop.
Du Burkina Faso, ça dégaine ses six coups, se lève à coups de goût. Passeur au Sénégal, dealer à Tombouctou, Macron à Brazzaville, le taulier Diaoundé. Raoul n'a qu'un amour, il entraîne au paradis et répond au doux nom de Margaret. Allez, Wongo, boy, quand elle danse, way, aïe, aïe, pousse diable en rue au paradis. Taillé dans de l'ivoire, ses chaussures du croco, du blanc pour ses costards. Un jour la belle crapule, cet afro de Saint-Louis, à l'arrière de la salle, réclama Maggie. Raoul, à coup de batte de baseball, l'expédia sans scrupule, revoir son Sénégal. Oui, quand elle danse, oui, aïe, aïe, pousse diable en rue au paradis. Cette histoire, elle sera triste et dramatique. Voici The End. Le type meurt dans la rue, tout le monde s'en fout, Brazzaz s'endort. Pendant ce temps, Raoul para, dégare à toi si tu l'endors. Maggie, elle n'en peut plus, elle voudrait caresser le sort. Changer de pays, changer de rade, et pourquoi pas embrasser la mort.
Lancement des travaux du nouvel office de tourisme à l'hôtel Sokkel à Cassel. Le bâtiment du 19e siècle va devenir l'office de tourisme intercommunal de cœur de Flandre Agglo. À cette occasion, Bruno Lobert a rencontré Valentin Belleval, président de cœur de Flandre Agglo, Madame Ordansky, architecte, Fabien Janssen, directeur de Destination Cœur de Flandre, et Dominique Joly, maire de Cassel. Cœur de Flandre Agglo ambitionne de positionner le territoire comme une destination touristique de premier choix. Valentin Belleval, président de Cœur de Flandre Agglo.
La seule bâtisse du 19e sur la place de Cassel, cet ancien hôtel particulier qui faisait vraiment... fait partie de ces bâtiments qui font la splendeur de cette place unique. Donc on a décidé de le racheter il y a quelques années et donc d'en faire le siège de l'office de tourisme intercommunal. Les travaux ont désormais démarré et puis on va redonner vie à ce magnifique immeuble.
Il y a plusieurs financeurs dans le projet.
Oui, c'est un projet à plus de 2 millions d'euros qui est porté par plus de 60% de cofinancement extérieur, notamment de la région, du département du Nord, de l'État, et on l'espère aussi de l'Union européenne. Voilà, donc tous les acteurs sont mis autour de la table pour financer ce très beau projet.
Vu ce projet, on pourrait dire que tourisme et écologie sont intimement liés.
Bien sûr, sur un territoire comme la Flandre, il y a un potentiel économique énorme autour de l'industrie du tourisme, autour du développement touristique, autour de la politique des grands événements du territoire, qui injecte beaucoup dans l'économie touristique. Donc, bien sûr qu'on a un gros potentiel ici, sans doute une partie de ce potentiel qui n'est pas encore exploité. Donc, on peut aller plus loin et ça commence notamment par donner une vraie vitrine à l'accueil touristique sur le territoire pour l'ensemble des dizaines de milliers de visiteurs chaque année sur notre très belle Flandre.
Merci beaucoup Valentin Belleval.
Merci.
L'implantation d'un nouvel office de tourisme à Cassel dans les prochaines années donnera une nouvelle dimension à la politique touristique menée par Destination Cœur de Flandre. Fabien Janssen, directeur de Destination Cœur de Flandre.
Belle journée effectivement pour un lancement de travaux, hein. On n'a pas encore les clés, hein. Il faudra encore être un peu patient, mais effectivement une belle journée sous le soleil cassellois qui permet de faire partager ce magnifique projet qu'on a depuis quelques années de réhabilitation de l'hôtel dit Sokel sur la Grand Place de Cassel.
Cette réhabilitation, elle était pensée, elle était étudiée.
Ça fait plusieurs années qu'on est dessus, qu'on est accompagné, qu'on travaille avec un cabinet d'architectes, DBO, hein, situé à Lille. L'idée, ça a été de se dire comment on fait de ce bâtiment une vitrine pour le territoire, une vitrine d'attractivité, une vitrine aussi de ce qu'on peut faire en termes de réhabilitation, en termes d'économie d'énergie, en termes d'économie circulaire, comment on va réutiliser les matériaux qui sont déjà dedans par exemple, comment on va éviter de jeter, comment on va repartir sur du neuf et garder le caractère de l'ancien.
Il y a quelque chose de bien particulier aussi, ce sera le chauffage.
Alors chauffage, effectivement, et même plus largement couverture de nos besoins en énergie. On sera sur une chaudière biomasse qui utilisera des broyats de haies. On sera également équipé de panneaux solaires qui, normalement, doivent permettre de couvrir l'entièreté des besoins du bâtiment lors d'une exploitation classique. Donc voilà, c'est aujourd'hui comment on prend en compte le changement climatique et l'obligation d'être exemplaire dans une réhabilitation d'un monument ancien.
Quand on va rentrer dans cet hôtel, premièrement, on va tomber sur ta bonne équipe qui est toujours présente et toujours au top.
Alors j'espère que vous n'allez pas tomber et vous faire mal. En tout cas, effectivement, l'idée, c'est de garder un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil aussi bien pour les visiteurs, pour les habitants, pour les partenaires touristiques du territoire. L'idée, c'est de pouvoir vous accueillir, alors je vais dire un peu comme à la maison, puisque c'est une ancienne maison, et de pouvoir vous faire découvrir la Flandre, hein, d'être véritablement cette vitrine pour le territoire.
À court ou à long terme, il y aura possibilité aussi de pouvoir réaliser des séminaires dans des petites salles qui seront une petite jauge de 25 personnes.
Oui, on a cette demande récurrente, hein, d'un certain nombre de nos clients qui cherchent des salles de séminaires. Quoi qu'il arrive, le bâtiment sera doté d'une salle de réunion pour déjà les besoins internes. Et l'idée, c'est de pouvoir la mettre en location. De pouvoir la mettre en location, ça va permettre effectivement d'accueillir des entreprises chez nous. Qui dit des entreprises qui viennent faire une réunion, dit potentiellement de les renvoyer vers des restaurateurs sur Cassel, sur les alentours. Dit également de pouvoir compléter leur panier avec des activités, soit des visites. Hein. On sait qu'on a le musée de Flandre à quelques centaines de mètres. On a bien sûr le moulin de Cassel ici. On a plein d'autres activités tout autour du Piémont. Pourquoi pas aussi d'avoir de la vente additionnelle avec notre boutique et la place qu'on réserve aux artisans du territoire.
Vous avez cherché au maximum à prendre des entreprises locales pour la rénovation.
Alors on a eu la contrainte des marchés publics, hein, bien entendu, mais on a des entreprises locales, des entreprises de l'arrondissement de Dunkerque qui ont répondu à ces appels d'offres, qui ont fait des offres intéressantes et qui ont été retenues, qui ont gagné, ce qui nous permet aujourd'hui d'employer et d'investir et du coup d'avoir des retombées économiques sur les entreprises du territoire, du Dunkerquois, de la Flandre intérieure. Et donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant et gratifiant en tant qu'investissement public.
Il y a eu un grand travail de nettoyage, désherbantage, retirer les peintures au plomb.
Oui, c'est la première phase du chantier. Hein. Je pense que si les Cassellois ont vu le chantier démarrer depuis le mois de janvier, on a eu toute une partie qui a été véritablement fermée, nécessaire. Ça a été, comme tu le rappelles, la dépollution, quand on dit dépollution, bien sûr des amiantages, des plombages, pendant lequel voilà, le bâtiment était vraiment en vase clos. Désormais, on va basculer sur une deuxième phase de chantier où on a encore un peu de déconstruction et puis ensuite où on passera aux moyennes œuvres et aux petites œuvres.
Pour Dominique Joly, maire de Cassel, cet office de tourisme du futur permettra d'offrir aux visiteurs une expérience innovante leur permettant de découvrir le territoire et ses richesses.
Dominique Joly, maire de Gazelle, bonjour.
Bonjour Bruno.
Ce matin, on a passé un moment très fort puisqu'il y avait l'ouverture de l'hôtel Sokel.
On a commencé la réhabilitation, hein, mais c'est sûr que d'ici un an, là, ça serait un aboutissement bien mérité que Cassel voit quand même un office du tourisme digne de ce nom. Ça serait l'office du tourisme du 21e siècle et voilà, interactif avec des choses interactives et il fait que de toute façon, on pourra recevoir et travailler avec cet office du tourisme à tout niveau. Et pour vous dire que Cassel montrera vraiment que c'est mérité et qu'on est bien la plaque tournante sur le territoire du tourisme. Cependant, tout ça, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. On est bien aidé par Cœur de Flandre Agglo, hein, avec son président qui sait bien que, de toute façon, Cassel est une plaque tournante du tourisme sur le territoire. Voilà.
Cet hôtel Sokel par lui-même, on peut dire qu'on l'a sauvé ?
Oui, pourquoi pas. Oui, parce que de toute façon, je pense que demain, un particulier n'aurait pas pu acheter ça. Ou en faire quoi ? J'aurais pas aimé que ça soit une banque.
Ce serait dommage.
Voilà, une banque atterrisse là. Donc voilà, non, je pense qu'on a fait le nécessaire. Cœur de Flandre Agglo a sauvé ce bâtiment et on peut s'en féliciter.
Ouais. Et en plus, on va avoir une très très belle façade qui va être refaite.
Tout à fait. De toute façon, tout le bâtiment sera refait, hein, et l'intérieur. On a pu le visiter ce matin. Les jardins, ils ont déjà, comme on dit, une belle gueule. Et voilà, on ira sur la totalité et attendons de voir le final qui...
C'est quoi, c'est 2026 le final ?
Oui, je pense que... Alors, soyons raisonnables, je pense que mars 2026... Allez, fin février, début mars 2026... Allez, disons, on y va pour cette date et je signerai toujours.
Voilà.
Les travaux du nouvel office de tourisme de Cassel ont commencé. L'objectif est de transformer cette vieille maison de maître et d'en faire le futur office de tourisme de Cœur de Flandre Agglo. Madame Ordansky, architecte.
Madame Ordansky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge de remettre au nord, on va dire, l'hôtel Sokel à Cassel, qui va devenir l'office du tourisme.
Alors oui, c'est un peu plus qu'une remise aux normes, parce qu'il y a quand même une grosse part aussi de... C'était une habitation, c'était un hôtel particulier. Aujourd'hui, ça va devenir un établissement qui reçoit du public.
Donc un ERP,
voilà, donc
avec toutes ses contraintes.
On change un peu l'affectation, donc on change aussi la façon d'habiter le lieu. Donc on est sur une réhabilitation thermique exemplaire, mais aussi une manière de retravailler l'architecture spatialement, comment on va déambuler dans le bâtiment pour accueillir un office de tourisme et un programme de bureaux.
Comment on procède ? On fait déjà un état des lieux avant de commencer ?
Ce qui est très important, c'est de faire d'abord un diagnostic, c'est-à-dire regarder l'état sanitaire du bâtiment, regarder ce qui ne va pas, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le budget. Donc tout ce qui ne va pas, il va falloir le budgétiser. Et puis après, on regarde comment on arrive à adapter, parce que casser un mur porteur, ce n'est pas la même chose que casser une cloison. Et voilà. Donc, ouais.
Il y a encore... Pour combien de temps de travaux ?
Alors, on a prévu une livraison, on est aux alentours de fin mars, juste après les élections.
Voilà, 2026 alors.
C'est ça.
Déjà, beau travail, le jardin qui a repris une âme, qui est très beau.
Alors ça, c'était le but, c'était un petit peu le challenge. On a toujours tendance à commencer par le bâtiment et après à terminer par le jardin. Et quand on fait une livraison, le jardin, il n'est jamais beau. Il est en cours de plantation, on a encore de la terre et tout. Et pour nous, on considère que le jardin, c'est une vraie pièce. Donc on a voulu anticiper, réaliser les plantations pour qu'à la livraison, on ait vraiment encore une nouvelle pièce extérieure. Voilà.
Donc, ce sera un jardin à vivre alors ?
Ce sera un jardin à vivre, à contempler aussi.
Avec une très belle vue.
Avec une super belle vue. On a quand même la chance d'être sur un versant où on arrive à voir toutes les routes qui menaient à Cassel.
Le fait d'avoir racheté le petit accès, c'est pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder ?
Alors, non. Faut savoir que dans le projet, on a intégré un ascenseur qui va se trouver en façade. Ça veut dire que tout le projet sera accessible, tous les niveaux seront accessibles. On avait un enjeu au début, au niveau de la programmation, on devait intégrer tout ce qui était vélo. Et c'était un vrai sujet parce que mettre les vélos au rez-de-jardin, c'est vraiment pas accessible. Donc il y a eu l'opportunité d'avoir cette construction-là rue d'air qui nous permettait d'avoir un deuxième accès de chantier, ce qui était plutôt intéressant, et à terme d'avoir un lieu pour accueillir le vélo. et stocker du vélo.
La façade par elle-même, elle va être ressablée, elle va être nettoyée, elle va être peinte.
Oui, alors elle va être renettoyée, donc c'est de la pierre, c'est un calcaire de Saint-Maximin. Il y a des pierres qui sont abîmées, qui vont être refaçonnées. On aura une vraie façade rénovée complètement, avec les châssis refaits à neuf. Et ouais.
Donc, un bel hôtel qui va siéger sur notre belle place de notre beau village de Cassel.
C'est ça. Et puis, c'est le seul bâtiment fin 19e que vous avez sur la place. Je pense que ce sera un nouveau symbole à Cassel.
Merci à vous.
Merci à vous. À bientôt.
Après avoir été la résidence de la famille Sauquel, un hôtel et un magasin, le bâtiment situé Grand Place à Cassel s'apprête à devenir l'office de tourisme intercommunal de Cœur de Flandre Agglo. Cet entretien a été réalisé par Bruno Laubert. Montage Koulibaly Daouda pour Radio Élanspierre.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous êtes sur le 106,6 et vous écoutez Radio Campus, la plus libre des radios associatives.
Presque trentenaire au saut du lit, ça affale sur le canapé, allume cigarette et télé, en se grattant l'arrêt du cul. Presque trentenaire, je vous envie, la vie devant vous. Et pourtant, vous m'avez l'air bien indécis, contemplant la cérémonie. C'est le dernier défilé d'un président trop vieux qui descend lentement. Parade défile fièrement à mort. El Regimiento à mort. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, les militaires marchant gaiement. 2 kilomètres à pied, ça fait des auréoles sous les aisselles. Parachutistes, chasseurs alpins, légionnaires, polytechniciens. Presque trentenaire, vous n'en êtes pas. Réformé de la dernière heure. C'est le dernier défilé d'un président trop vieux qui descend lentement. Parade défile fièrement à mort. El Regimiento à mort. Et les ministres de saluer, les dignitaires de s'assoupir devant nos armes faites pour la paix. N'oublions pas de préciser, presque trentenaire foule les pavés derrière les panzers rutilants. Il est du côté des gentils, Nations Unies pour le commerce. On a le triomphe modeste et l'on s'aime de temps en temps de voir nos enfants s'allumer.